Voilà, chers auditeurs, vous êtes toujours sur écoute de Radio Loi Face 106.8 FM au sein de l'émission Les Informations Citoyennes. Alors, de suite, nous allons débuter le débat de la soirée sur Radio Loafa, notamment sur les violences dans le monde arabo-musulman suite aux caricatures indignes, pour certaines incitant à la haine raciste. Et de suite, puisque nous avons beaucoup d'invités, notamment Farid Al-Asli, professeur, Yarko Mahi Idem, vous avez aussi Monsieur Fadi Benadi, président COCAB, composant de la communauté arabe de Belgique et le président de l'exécutif des musulmans de Belgique, Monsieur Beyazgul Joshkoun, qui est ici présent, qui était aussi présent au sein de l'émission Controverse sur RTL ce dimanche. Alors, monsieur le président de l'exécutif des musulmans de Belgique, wassalamu alaykoum.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah.
Alors voilà, donc, suite aux caricatures insultantes pour certains incitant à la haine raciste, le monde musulman, ou une partie du monde musulman, s'est enflammé. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et on parlera peut-être des caricatures dans un second temps, mais par rapport surtout aux violences, est-ce que vous avez éventuellement un message à adresser à la communauté musulmane?
En tout cas, je profite de l'occasion pour exprimer donc mes sentiments. Donc, je souhaite une très bonne fête, très bonne année de l'Égypte pour la communauté musulmane et également un très bon Ashura. Donc, effectivement, les caricatures ont profondément blessé la communauté musulmane mondiale, puisque l'être le plus cher en nous avait été caricaturé d'une manière à ce qu'on fasse directement à l'amalgame, justement, entre terrorisme et musulmans, et on avait le sentiment que avec l'image du prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui ainsi que sur les autres prophètes, avait été utilisé et donc pour faire passer lui et l'ensemble de la communauté musulmane comme des terroristes. Et donc la communauté musulmane mondiale a été profondément choquée et blessée par ces caricatures. Évidemment, comme vous l'avez signalé, ça a provoqué un peu donc des mouvements de foule un peu partout dans les pays musulmans aussi. Ce qu'on constate, évidemment, c'est qu'il y ait donc cette violence exercée par certains de manifestants qui est donc extrêmement dangereux, et d'ailleurs il faut les condamner, puisque bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est pour nous un être très cher qu'il faut bien sûr défendre. Mais ce n'est pas de cette manière qu'on défend le prophète. Si on veut défendre le prophète, il faut le suivre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que lorsqu'il était parti à Taïf pour rencontrer et donc faire ses prêches, il avait été directement attaqué par des jets de pierre. Et donc il a préféré la clémence au lieu de s'attaquer à ces personnes. Et au lieu de procéder par violence, c'est l'esprit de l'islam, c'est l'esprit, c'est l'éthique, la morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui doit être véhiculé partout dans le monde musulman, et qui doit être un principe respecté par tout musulman. Je crois que là, évidemment, c'est une réaction, et lorsqu'il y a réaction, ça devient incontrôlable, mais un musulman doit avoir une certaine autodiscipline, il doit avoir un esprit critique, et ne doit pas céder à la tentation et à ce genre de provocation.
Merci, monsieur le président de l'exécutif des musulmans de Belgique. Je cède la parole au professeur Farid Al-Asri. Alors, professeur, 11 morts déjà, des manifestations un peu partout, 3 ambassades déjà incendiées, des violences, un prêtre italien, dit-on, qui aurait été assassiné en Turquie, une folie désespérante. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que professeur de religion musulmane, vous enseignez dans nos écoles?
Simplement par rapport à la question peut-être de la genèse de ces événements, revenir à la question des caricatures qui pose un réel problème de fond. C'est celui de la construction de l'image de l'autre. Alors, quelle image est-ce que nous avons du musulman lambda aujourd'hui? Il suffit de voir le turban danois et ce qu'il reflète. Donc moi, le problème qui a été posé dès le départ, je crois que c'est un problème qui a mal été posé, c'est celui de la discussion ou pas autour de la pertinence ou de la légitimité de poser une caricature ou pas. Je crois que le vrai problème, c'est le contenu de la caricature en tant que telle, et c'est là, je crois, qu'on aurait dû commencer à construire quelque chose, être très ferme, comme on l'a vu dans certaines réalités, entre autres en France, et la réaction du MRAP par rapport à cela, qui s'est saisi de l'affaire, sur un débat de fond. Et en même temps, donc, de réagir et d'être touché sur le plan émotionnel. Il est clair que ça interpelle, ça choque, c'est insultant. Mais en même temps, au-delà de cela, quelle action est-ce que nous pouvons mettre sur pied pour aller à l'encontre de ce processus-là? Or, aujourd'hui, ce qui a été présenté, c'est celui d'un clash, en tous les cas, des ingrédients d'un clash entre les civilisations, où d'une part, on se drape de manière assez ostentatoire de cette liberté d'expression qui n'a pas de limite, et en tout cas, on vient de l'écouter, donc juste avant, c'est pas tout à fait le cas. Et puis, de l'autre côté, au nom d'une image du prophète qu'on ne touche pas et qu'il ne faut absolument pas toucher, et donc où on veut marquer une certaine limite de la liberté d'expression. Je crois que le problème, il a mal été posé d'entrée, et il traduit véritablement un déficit au niveau de l'écoute, au niveau de l'écoute de l'autre, et en même temps d'être outillé, d'aller vers la sensibilité de mon vis-à-vis et de ce qui l'anime. Et je crois que là, du côté de la liberté d'expression, beaucoup, et on a entendu énormément de modérateurs aussi, des gens qui appellent à la raison, de dire qu'effectivement nous sommes choqués, qu'il faut parler d'une limite à la liberté d'expression. Moi j'ai un problème avec cela, je pense qu'il ne faut pas parler de limite à la liberté d'expression, mais qu'il faut véritablement parler aujourd'hui d'une éthique de la liberté d'expression qui donne finalement des outils et qui intègre l'autre dans un respect de ce qu'il anime et de ce qu'il est, tout en étant évidemment en phase avec une liberté d'expression qui s'exprime, une liberté d'expression qui peut choquer, qui peut interpeller, qui donne son opinion, mais qui construit. Simplement, pour revenir par rapport à cela, je suis débordé, autant que le monde musulman, par les excès que ces caricatures ont provoqués.
Vous les condamnez sans réserve ?
Je suis très ferme dans la capitalisation que certains font de manière très intelligente d'instrumentaliser l'émotionnel des musulmans. Alors il est clair qu'au niveau du cœur et au niveau de l'émotion, on peut être touché. Au-delà de cela, effectivement, le prophète ﷺ n'a pas été touché. Ce sont les musulmans qui sont touchés aujourd'hui. Et donc nous sommes amenés, à la lumière de ce qui nous anime, en l'occurrence le prophète et ces traditions qui sont une vraie charge et un héritage qui nous porte aujourd'hui, à agir à la lumière de cela. Et donc la Sunna nous invite aujourd'hui à revenir à toute une série de résistances qui ont été mises dans le chemin du prophète sur lui la paix, et qui à partir de là, il a construit quelque chose. Qu'est-ce qu'il a développé? Or aujourd'hui, on voit au nom de ce qui nous anime, on tente une défense, mais on va à l'encontre de tous les principes qui nous animent. Et donc je crois que là, il est clair que nous sommes en train de reproduire le syndrome Rushdie. On est dans pleine année 89, où on brûle sans avoir lu, où on vocifère sans avoir compris, et où certains, je le dis encore une fois, certains, c'est avec énormément de bonne volonté, mais on ne fait pas tout, on ne légitime pas tout au nom d'une cause qui peut être légitime. On diagnostique convenablement et en même temps, on répond de manière efficace. Et moi, je crois qu'à partir de cette réalité, de ce qu'on est en train de voir, on aurait pu développer vraiment quelque chose de positif, c'est-à-dire de boycotter l'ignorance, hein, de boycotter l'ignorance par rapport à l'image qu'on a du prophète alayhi salatu wasalam, de cesser de dire ce que le prophète n'est pas, mais de dire ce qu'il est. Et puis la dernière chose, de manifester publiquement avec nos concitoyens et de dire véritablement, ouvrons ensemble des plateformes vers une meilleure connaissance mutuelle et bien sûr, au nom de la liberté d'expression, une liberté d'expression qui est partagée loin de toute violence.
On va se rendre direct ici sur Radio Al-Wafa 106.8 FM. Nous allons directement céder la parole à monsieur Fadi Benadi, qui est président des composants de la communauté arabe de Belgique. Monsieur Fadi, salam alaikum.
Salam alaikum.
Voilà. Alors peut-être votre réaction par rapport aux caricatures, mais surtout par rapport aux violences qui s'en est suivies.
On ne sait pas parler de l'une sans parler de l'autre, en tous les cas. Parce que il y a des faits causales à tout cela. Parce que, comme je l'ai déjà répété, ce n'est pas la première fois qu'on s'attaque aux musulmans, que ce soit à travers le symbole qui est le prophète ou autrement. Mais jusqu'à maintenant, je pense qu'il y a eu des réactions proportionnelles, intelligentes, qui répondaient aux choses. Et cette fois-ci, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que ces caricatures, ils ont apparu le 30 septembre, une première fois, et la deuxième fois vers le 20, je pense, du mois de janvier. Et c'est ça le problème qui m'est posé avec toute la flambée qui a suivi. Alors, moi, je me pose la question. Est-ce qu'au moment où il y a eu la première publication, pourquoi il n'y a pas eu autant de réactions et pourquoi on n'a pas vu le monde arabe et le monde musulman s'enflammer? Pourquoi on n'a pas vu les États parce que apparemment ils sont dedans maintenant, parce que c'est les ambassadeurs qui ont été voir le premier ministre danois, c'est la Ligue arabe qui s'est réunie avec le musulman de Danemark. Je dis, est-ce qu'ils n'ont pas voulu exploiter cette situation et nous prendre, nous, en otage en tant que musulmans, qui se trouvent en Europe ou ailleurs? Parce que cette situation, elle n'est pas aussi simple. Du jour au lendemain, on entend Bush et Blair qui condamnent la publication. Deux jours après, ils reviennent, alors ils sont en train de dire qu'il y a des pays arabes qui sont derrière tout cela. Et c'est le même Bush et le même Blair qui est en train de bombarder de l'Irak, en train de faire des dizaines de milliers de morts. Et en même temps, qu'est-ce qu'on voit? Cette apparition, la deuxième fois, c'était en plein campagne. Si on se rappelle bien, c'est qu'on commençait à parler de Hamas qui pouvait gagner les élections palestiniennes et pouvait avoir une influence sur la politique palestinienne. Et du jour au lendemain, alors toute cette... Parce que on n'a pas parlé de la flambée concernant les caricatures jusqu'après les élections palestiniennes. Il y avait des manifestations, il y avait des grabuges, mais on n'en parlait pas au niveau des médias internationaux. On les a mis au blackout tant qu'il n'y a pas les résultats palestiniens. Moi, je me pose la question, parce que la démocratie, la liberté d'expression, la liberté de la presse, je pense que les pays d'origine dont nous sommes, messieurs, les populations, ils se sont battus pour ça. Ils ont laissé des dizaines et des dizaines de milliers de morts pour qu'ils arrivent, après un siècle de combat, pour arriver. Mais jusque-là, je pense, le seul pays où ça s'est exercé convenablement, c'est le pays qui est encore sous occupation. C'est la Palestine. On a vu où il y avait des élections démocratiques, où les gens ils se sont exprimés, et bah, la population a choisi un mouvement islamiste. Et après. Les gens, ils ont voulu ça. Alors, je pense que ça a un lien étroit. Parce qu'il ne faut pas minimiser la chose, juste une petite provocation qui arrive de quelqu'un qui ne savait pas de quoi il allait parler.
Vous pensez que c'est une affaire aussi politicienne, politique?
Oh bien sûr, parce qu'elle n'est pas la première.
D'accord, on va peut-être céder la parole au professeur Yarko Mahé, on va faire un tour de table, juste en rappelant que la semaine passée, jeudi, sur ce même plateau, nous avions reçu son Excellence l'ambassadeur du Danemark ici, qui s'est expliqué pendant une vingtaine de minutes, son Excellence l'ambassadeur du Danemark qui mardi a reçu l'extrême droite et le Vlaams Belang, notamment Philippe de Winter, au sein de son ambassade pendant un quart d'heure, c'est rapporté par le journal le soir. Alors il y a des questions à se poser lorsqu'on sait que au Danemark, il y a un gouvernement de coalition, notamment des libéraux, des conservateurs, mais aussi un parti d'extrême droite très engagé, en tout cas, sur les questions religieuses musulmanes et de l'immigration, et qui est un parti profondément raciste et xénophobe. Professeur Yarko Mahé, pour revenir justement aux conséquences de ces caricatures incitant à la haine raciste, quel est votre point de vue en tant que citoyen belge musulman par rapport à cette flambée de violence?
Par la grâce de Dieu, je tiens d'abord à présenter mes sincères condoléances à la communauté musulmane à l'occasion de Ashura, qui est aussi un jour de deuil pour la communauté musulmane, et surtout un jour de... C'est une victoire, même si la défaite y est avec la mort de l'imam Hussein alayhi salam, c'est aussi une victoire, celle qui symbolise la victoire de Moïse avec le peuple d'Israël contre l'esclavagisme de Pharaon. Et en ce jour aussi, comme aujourd'hui, la mort de l'imam Hussein symbolise aussi la victoire contre l'injustice, même s'il est mort sous les épées de Yazid et des Omeyyades. Sa mort était le symbole d'un cri de libération, d'un appel d'espérance. Et je pense que c'est ça qui doit nous animer aussi aujourd'hui, principalement ces derniers jours. Monsieur Fedi vient de le rappeler, c'est arrivé vers le 20 janvier, c'était après l'Aïd, c'était le début du nouvel an musulman, c'était juste avant les élections du Hamas, et juste après les élections du Hamas, on lance cette affaire. Je pense que ce n'est pas innocent. Mais il faut rester sage, et ce n'est pas dans la décharge émotive que l'on pourra solutionner les choses. Et là, on montre encore que la communauté musulmane réagit au rythme des médias. Et c'est au rythme des médias qu'on a exposé dans certaines capitales, c'est au rythme des médias que des marches ont eu lieu, même qu'elles n'étaient pas structurées, organisées, même légales.
Je rappelle qu'à Bruxelles, dimanche dernier, à 14h, 5000 personnes ont défilé de la place Rogier jusqu'à la RTBF.
Heureusement que ça s'est passé dans le calme, alhamdoulilah, mais malgré ça, j'étais contre cette marche, bien que je ne suis pas contre la manifestation. Pour moi, la manifestation est un moment qui peut permettre à la communauté d'exprimer son bouillonnement, mais de manière structurée, cadrée et bien réfléchie, en tissant des partenariats avec d'autres, dont des non-musulmans aussi, dont des gens qui ne sont pas touchés directement par la personne du prophète Mohammed sur lui la paix, mais qui sont touchés par le principe même de la caricature qui insulte. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que la liberté d'expression a effectivement ses limites. Parce que si on lit la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention européenne des droits de l'homme, l'une ne met pas de limite, par contre l'autre consacre quelques limites en estimant qu'il y a, on ne peut pas, la liberté d'expression ne peut pas mener à l'insulte et à l'incitation à la haine raciale. Exactement, l'article 19. Et on retrouve même qu'on ne peut pas diffamer, qu'une critique ou l'expression ne peut pas mener à diffamer à l'égard d'une personne. On doit préserver la dignité, l'intégrité de la dignité de la personne. Et donc, par rapport à cela, je pense que les musulmans sont tombés dans l'émotion, mais ils ont réagi au rythme des médias. Il faut condamner de manière catégorique les propos, les actions, les agressions contre les ambassades, le fait de brûler des drapeaux, le fait de... etc. Je pense que
ce ne sont pas des comportements islamiques sur le plan éthique.
Ce ne sont pas des comportements humains, tout simplement, et islamiquement ne sont pas approuvés parce que islamiquement, il s'agit d'une personne qui a fait des caricatures, on s'en prend à la personne dans le sens par le biais du droit, on interpelle la personne. Parce que ce sont des caricatures insultantes qui incitent à la haine raciale. Il faut qu'on entende bien, la caricature n'est pas interdite en islam. La critique de notre religion n'est pas interdite. Un non-musulman a le droit de dire « votre religion, moi, c'est du n'importe quoi ». Il a le droit de considérer le prophète comme un banal homme, comme n'importe qui.
Il a le droit pour vous d'être islamophobe ?
Islamophobe, non. Ça, c'est autre chose. Parce que c'est de l'incitation à la haine de l'autre, parce qu'il a une spécificité spirituelle ou nationale.
C'est ce que disait Claude Imbert, rédacteur en chef du journal Le Point en France, oui. Qui disait « je suis islamophobe et je l'assume ».
Oui, alors, parce que le droit, pour l'instant, malheureusement, le droit ne condamne pas les propos islamophobes ou les actes islamophobes, au même titre que les actes christianophobes ou judéophobes. Alors que c'est de l'antisémitisme islamophobe.
Alors, on va peut-être donner la parole à Fadi. Juste dans le climat ambiant, à savoir qu'on a l'impression qu'il y a une islamophobie latente depuis maintenant de nombreuses années. On aimerait savoir éventuellement si vous avez des pistes pour sortir de là. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions, mais à un moment donné, il faut que la raison prenne le dessus. Monsieur Fadi, à vous la parole.
Moi, en tous les cas, concernant le racisme, j'aime pas le saucissonner. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'antisémitisme, islamophobie, tout ça. Pour moi, un racisme, c'est un racisme, quelle qu'elle soit. Alors, il va falloir essayer de revenir à la raison, même pour les gens. C'est vrai, à un certain moment, il y avait l'antisémitisme, mais je pense que la situation actuellement, c'est une question de racisme. Il n'y a plus d'antisémitisme, ni islamophobie, ni homophobie, ni autre chose. Le racisme, c'est le racisme, et il faut le condamner. La liberté d'expression, la critique, la liberté de presse, c'est quelque chose pour laquelle on s'est battu. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut accepter en qui que ce soit, dans une critique, qu'on puisse insulter les gens. C'est pas possible, qu'on peut les blesser. Parce que déjà, même entre deux personnes qui sont en train de... Parce que la critique, elle amène avec elle, elle ne peut être vraiment, portable de quelque chose de bénéfique. Ce n'est pas accompagné de l'autocritique. Parce que la critique n'est pas tout seul. La critique, il y a avec elle l'autocritique. La liberté, il y a d'expression, il y a avec elle la responsabilité des propos et des faits et des gestes qu'on fait. Parce qu'on ne peut pas s'attaquer comme ça.
Ce que j'entends de vous, c'est responsabiliser la liberté d'expression.
Non, c'est pas la liberté d'expression, ça veut dire une responsabilité de tout ce qu'on exprime, parce que celui qui t'a dit qu'il est islamophobe et qu'il est et qu'il assume ça veut dire que il est responsable de ses propos et on peut l'attaquer en justice, et c'est ça le plus important, parce que il faut pas non plus qu'on tombe dans des dérives comme on a appelé au boycott des produits danois. Je dis, mais attendez, pour vous, on ne va pas incriminer tout un peuple.
Pour vous, c'est surréaliste, c'est injuste.
Mais c'est injuste, on ne peut pas faire une punition collective.
Alors voilà, merci.
Au moment où il y a un responsable.
Je vais vous demander d'être concis parce que le temps défile, malheureusement, Yarkob.
Deux choses, si je peux rapidement revenir là-dessus sur la question du boycott. Bien sûr qu'on entend bien, mais ce n'est pas la même chose que le boycott des produits sionistes américains.
Non,
c'est autre chose.
Par
contre, les produits danois, moi je suis d'accord, je ne suis pas pour le boycott des produits danois dans leur ensemble. Je pense que c'est de l'excès. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, il faut bien entendre que les responsables, les dignitaires des pays musulmans ont aussi utilisé ça en leur faveur. Parce que dictatoriaux comme ils sont, des torsionnaires sanguinaires, ils n'ont pas hésité à instrumentaliser cela, et c'est un débat de surenchère pour laisser entendre qu'il y avait, qu'ils étaient touchés par la sensibilité de la foi et prendre la défense de leur peuple. Alors qu'on sait que ce sont des gens qui sont constamment en train d'entretenir le prestige de leur régime policier.
Professeur, ça paraît, c'est vrai, aussi un peu surréaliste, parce que très souvent les manifestations sont interdites. On a vu comment les subsahariens en Égypte ont été entre guillemets massacrés, puisqu'il y a eu quand même une cinquantaine de morts. Et on sait que très souvent dans le monde arabo-musulman, la liberté d'expression bien évidemment n'existe pas, et que la liberté de manifester n'existe pas. Et là, étonnamment, dans des pays très fermés, on a vu des manifestations spontanées voir le jour.
Ben oui, ça permet un débat de surenchère dans ces pays musulmans-là, surtout à l'aube de la victoire du Hamas aujourd'hui en Palestine. Donc on veut sembler aussi être les défenseurs de la foi dans le combat noble que l'on est en train d'entreprendre. Et ceci étant, je pense que les communautés musulmanes en Belgique doivent agir en Belgique et en Europe par un acte citoyen, interpeller le droit, interpeller donc nos politiciens aussi, et mener des actions réfléchies sur l'interpellation de qu'est-ce qu'on entend par la liberté d'expression face à ces excès. Mais il faudrait que les dignitaires musulmans aussi s'expriment de manière sage, parce que j'ai entendu dans des propos, j'ai lu dans certains textes, certains qui nous ont impliqués, même à moi, alors que j'en suis pas responsable, je n'étais pas présent, mais qui nous ont impliqués en faisant un parallélisme avec ce que les Juifs ont vécu dans les années 40. C'est inacceptable. On peut pas comparer ce qui s'est passé dans les années 40, donc le massacre des Juifs par Hitler, avec ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que les musulmans doivent quand même être réfléchis et sages dans ce qu'ils disent. Et qu'on m'entende bien, tout acte qui minimiserait ou qui banaliserait la criminalisation d'un juif ou d'un tzigane ou d'un kurde ou d'un bosniaque ou d'un palestinien,
alors justement,
c'est un génocide.
Professeur
Yarkoub,
on s'écoute 5 minutes ce débat qui a été enregistré ce dimanche, et j'aimerais que vous me donniez votre avis. Voilà, ça dure 5 minutes.
Hé, hey, tonton, les cavaliers sont trop...
Voilà, on s'est trompé, on est en direct, veuillez m'excuser. Apparemment, d'ici quelques secondes... Voilà, donc c'est un enregistrement qui a été réalisé ce dimanche.
Monsieur Caspi, pouvez-vous nous raconter un peu qui vous êtes et nous expliquer ce que vous faites?
Salam alaikum, shalom alaikum. Je suis un Marocain juif hollandais, que j'habite 36 ans en Hollande. Oui. Et j'ai quitté le Maroc, ça fait 19 ans. Et mon Maroc, je l'oublierai jamais, parce que c'est là-bas que je suis né, Mlah, et c'est là-bas que j'ai tout appris pour présenter les Marocains ici, dans tout le monde entier. Alors c'est pour cela que ça fait 5 ans que j'ai créé une association juive marocaine des Marocains, qu'on appelle ça l'association Maïmon. Et l'association Maïmon, c'est elle qu'elle présente toute la culture, patrimoine de nos racines, de votre racine aussi, des Marocains, et pour faire aussi connaître nos patrimoines aussi aux Belges, aux Hollandais, aux Européens. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils étaient toujours associés à toutes sortes de manufactures, de tout ce qu'il y a au Maroc. On était ensemble. Nous, on habitait au Mellah, et vous, à la Médina, vos parents. Alors, si on a la troisième génération, que vos parents, ils n'ont jamais raconté leur patrimoine, c'est dommage, mais il faut que vous devez savoir votre culture. Votre culture, c'est la nôtre, c'est la même, de chez vous et chez nous aussi. Pourquoi? Parce qu'on parle la même langue. Je parle aussi l'arabe, on parle aussi le français, on parle l'espagnol, on parle de toutes sortes de langues. Aussi tamazir. Ça veut dire que pourquoi on doit avoir une haine entre les Juifs et les Européens, ça. Essayons de faire présenter notre carte visite blanche. La religion, votre religion et la nôtre religion, c'est un peu la même chose. Hein? Et le roi, Allah irhamo, Mohammed le V, le grand-père de notre roi, celui qui nous a sorti quand il y avait la guerre ici d'Hitler. Alors quand il y avait la guerre d'Hitler, il y avait Pétain au temps de l'Algérie. Ils sont venus chez le Mohammed en 1942, ils sont venus lui dire: Monsieur Majesté, est-ce qu'on peut avoir les Juifs ici au Maroc, hein? mais on a ici 250 000 étoiles jaunes que je veux donner ça gratuitement aux Juifs. Alors, qu'est-ce qu'il a dit le roi Mohamed V, il a dit non. Si vous avez encore 50 étoiles pour ma famille, hein, c'est pour moi aussi. Parce qu'ici, on n'a pas de Juifs, on n'a que des Marocains. Alors, avec ça, on n'a jamais, au Maroc, jamais dit que vous, vous êtes comme ça, et vous êtes comme ça, on est la même chose. Alors, cet exemple que je vous ai dit maintenant, on doit le suivre ici, chez vous, en Belgique ou en Europe, pour faire connaître nos racines. Et nos racines, c'est le vôtre aussi. Et même les Belges et même les chrétiens, on doit s'associer ensemble pour nous présenter nos patrimoines et savoir d'où nous venons. Si vous savez d'où vous êtes, alors vous êtes une autre personne. Et c'est pour ça que notre association, qu'elle est à Amsterdam, en Hollande, on donne aussi, je rentre dans les écoles, je rentre dans les mosquées, les synagogues, des églises aussi, à Amsterdam, beaucoup des églises qui m'invitent, en parlant des Juifs marocains et marocains. Avec ça, ils doivent savoir que tout le monde, même les Européens, disent « Ah, voilà, on a ici les Marocains qui savent qu'ils ont une racine. » Et il ne faut pas oublier que la troisième génération doivent aussi étudier un peu leurs racines. Et ils doivent savoir d'où ils viennent. Et si les parents, la première et la deuxième génération, qu'ils ont fait une grande faute de ne pas dire et de ne pas raconter leur patrimoine, alors ça veut dire que nous sommes ici à vous aider. Parce qu'ici, on est un peu handicapés, parce que les Européens, ils ne savent pas comment vous êtes. C'est pour ça que je parle aussi de ce que je vous ai dit ici. Je peux aussi le traduire en arabe, en toutes les langues. Et si en cas, vous avez besoin qu'on vienne chez vous, on est là. Hein? Notre association, elle est vivante. Notre association, elle fait aussi des fêtes. Notre association, on peut aussi fêter avec vous, avec les musulmans, avec les belges, avec les chrétiens, avec tout le monde.
Voilà, en tout cas, c'était Monsieur Caspi qui est venu, qui est hollandais, marocain et juif, qui est venu ce dimanche après-midi à Bruxelles pour présenter son ouvrage. Et donc, voilà, j'ai trouvé que c'était assez pertinent dans le contexte dans lequel nous sommes de pouvoir le passer, surtout d'autant plus qu'il y a un journal iranien qui fait de la surenchère et qui a proposé de faire des caricatures sur l'Holocauste. Alors, professeur Yarkomahi, vous devez partir, je vous cède la parole.
Oui, moi je voudrais dire que ce qu'on vient d'entendre, ça interpelle quant au partenariat qu'on pourrait avoir avec des non-musulmans aussi sur la question du respect de la religion, de l'éthique, de la culture, etc., d'autrui, de l'ethnie des autres, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans, agnostiques ou athées. Et il faudrait savoir que banaliser ou minimiser la mémoire blessée, que ce soit des juifs, des chrétiens ou des musulmans, minimiser les crimes qui ont eu contre l'humanité, que ce soit le crime contre les juifs, les tziganes, que ce soit le génocide bosniaque, le génocide contre les palestiniens actuellement, il faut le dénoncer au même titre que la violence qui est entretenue par ces pouvoirs qui veulent nous donner des leçons de liberté d'expression, de démocratie, de savoir-vivre. Je rappelle qu'en France, par exemple, on a essayé d'étouffer une voix vivante qui est celle du professeur Roger Garoudi, parce qu'il a dénoncé l'instrumentalisation du génocide de juifs et critiqué la politique de l'État d'Israël en le faisant passer pour un antisémite alors qu'il n'a jamais été négationniste, il n'a jamais été antisémite. Et par la même occasion, quand un livre en 1995 qui critiquait ce qui se faisait en Algérie au nom de l'islam, etc., avec des mainmises des pouvoirs étrangers, eh bien ce livre a été interdit, banni, et il ne pouvait être diffusé en France au même moment où on recevait, en 1995, on recevait notamment Salman Rushdie, notamment en France. Ce que je pourrais dire, c'est que synthétiquement, tout ce qui peut se faire en guise de réaction est quelque chose de mauvais. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille dans le sens d'une mise en commun de nos énergies avec les instances musulmanes, avec les associations, avec tous les individus de bonne volonté, musulmans et non musulmans, aller dans le cadre d'un débat de fond, serein, responsable, sans exploser les esprits. Et les propos qui sont tenus d'appel aux caricatures par-ci, par-là, comme on l'a entendu en Iran et ou peut-être même ailleurs, je pense que c'est une forme de violence symbolique, de la provocation gratuite. gratuite à laquelle il ne faut pas répondre. Je pense qu'on ne peut pas nous répondre au mal par le mal, et nous vivons aujourd'hui le jour de Ashura. Le sacrifice de l'imam Hussein alayhi salam, le sacrifice du prophète, comme a rappelé monsieur le président, lors de Taif et d'autres moments, le sacrifice de Moussa alayhi salam en ce jour à l'égard de la tyrannie de Pharaon, sont des modèles pour nous de pouvoir aller de l'avant, et par la sagesse, par les propos mesurés, on pourra sans aucun doute, inshallah, mener les sociétés à un vivre ensemble de respect et dans la dignité des autres.
Merci professeur Yarkour pour ces sages paroles. Professeur Khalid Al-Assali, justement, vous avez entendu ce passage de monsieur Caspi, juif marocain, mais peut-être pour revenir par rapport aux violences et aux caricatures, est-ce que vous avez une piste pour que les musulmans sortent justement de ces manipulations?
Oui, simplement, ce type d'acteurs peuvent être des interfaces intéressantes pour pouvoir justement développer un débat qui, à mon sens, n'est pas du tout un débat de musulmans. C'est un débat qui touche effectivement un des symboles de l'islam, mais le fait qu'il a mal été posé a quelque part limité la portée à la réaction des musulmans. Or, je crois qu'ici il y a un vrai problème manifeste et qui dépasse toute la dimension religieuse, et je pense que si on avait amené les choses de manière beaucoup plus construite, on aurait été au fond du problème et on aurait mis le doigt sur le problème. Alors, revenons à la question de la liberté d'expression. Lorsqu'on parle de limites, effectivement, on peut parler de limites quand on parle que il y a le droit qui balise la liberté d'expression. Il y a la question de la justice qui joue par rapport à la liberté d'expression. Mais le problème, il est, qu'est-ce que nous voulons dans le projet Europe? Est-ce que nous voulons simplement que le journaliste limite sa plume pour ne pas aller à l'encontre du droit? Ou est-ce que je veux, moi, participer à alimenter et à nourrir la probité intellectuelle du journaliste pour aller beaucoup plus loin? C'est-à-dire qu'au moment où il pose sa plume pour dessiner des traits, il tient compte de ma présence, il tient compte de mon exigence et de ma sensibilité dans la manifestation de son humour ou de sa satire. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est que lui compose avec ma présence. Or, aujourd'hui, ce qu'on est en train de demander lorsqu'on parle de limite à la liberté d'expression, on lui dit, attention, on brandit la justice en lui disant, si tu fais cela, tu es en entrave et tu es en dérapage. Je pense que là, c'est une posture un petit peu courte, et je crois qu'on doit aller beaucoup plus loin que cela. C'est cela, moi, à mon sens, être un citoyen qui participe à une construction dans le cadre d'une collectivité, avec toute la différence que cela peut amener et la dimension de la pluralité. Alors, quand on parle, moi, d'islamophobie, je ne sais pas si la caricature en tant que telle est complètement islamophobe ou pas. Je pense, en tous les cas, qu'ici, elle est anti-musulmane, d'emblée. C'est peut-être beaucoup plus profond que cela. Et je ne sais pas si les caricaturistes en tant que tels le sont. Mais l'analyse que je fais de l'image me pose un problème.
Alors, professeur Farid, après, oui, un des caricaturistes qui a proposé une caricature qui était la plus soft, où on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en enfant devant un tableau, lui dit clairement qu'il y avait l'un ou l'autre caricaturiste qui a fait ces caricatures dans le but clairement de provoquer. Et donc, oui, il a été interviewé par une chaîne française.
Alors, le fait qu'on pose ce type de caricature, il faut revenir un petit peu par rapport à la volonté. Pourquoi est-ce que ces caricatures ont apparu? La volonté était la suivante, c'était, on va tester le degré d'autocensure des journalistes par rapport au débat sur l'islam. Et donc, finalement, effectivement, c'est une provocation. Mais moi, je dis, on peut provoquer et tester un petit peu. Il n'y a aucun problème. Moi, je ne suis pas propriétaire du message du prophète, ni même du prophète.
Alors, professeur,
le problème, il se pose où? À partir du moment où on montre qu'au fond, le symbole de l'islam, et c'est pour ça que ça a été très violent, c'est que le musulman, lorsqu'il prie aujourd'hui 5 fois par jour, il tire ses références du modèle du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, il le vit dans sa chair, dans son cœur, dans son émotion. Mais maintenant, l'image qu'on en donne, on dit, voilà le symbole d'une sexualité outrancière, entourée de femmes, etc. L'image, on les a vues. Et en même temps, d'une violence à tout va. C'est-à-dire que le message... Je ne sais même pas si c'est de l'amalgame. En tout cas, ça traduit une chose, c'est qu'on est en plein Moyen-Âge. On est en pleine folie du Moyen-Âge.
Alors, professeur, justement, je voulais en parler. Vous connaissez aussi bien que moi l'histoire médiévale. On sait que ça a bercé tout au long de l'histoire de l'Occident. Il y a eu, si vous voulez, des...
bien, mais que la présence des musulmans depuis une quarantaine, cinquantaine d'années, et puis une présence naturelle des musulmans en Europe du côté des Balkans, n'ont pas fait vraiment avancer le débat. C'est-à-dire que, de manière passionnelle, il y a quelque chose qui me construit, qui construit la psychologie collective, qui est partie effectivement d'une amnésie de l'histoire, et qui est en train de nous montrer que pas une once d'évolution dans l'image que je me construis de l'autre n'a été faite. Et il est là le vrai problème. Et c'est là où on aurait pu provoquer et lancer toute une série de plateformes de réflexion sur le plan de l'histoire, sur le plan de la construction de l'image de l'autre, sur le plan de la connaissance ou de la reconnaissance de ce qu'a fait le prophète alayhi salatu wasalam. Et en même temps, il faut le dire, et ça c'est une petite parenthèse, de dire que le fait que les musulmans ne représentent pas le prophète alayhi salatu wasalam, mais ce n'est pas une entrave. Au contraire, c'est un stimulant au niveau de l'imaginaire. Rappelons le feu Mustafa al-Aqad, rahimahullah, qui est décédé de manière très violente, qui est le réalisateur du film Le Messager, Le Message et Le Lion du Désert. Il a provoqué quelque chose de tout à fait intéressant et de phénoménal sur le plan hollywoodien. Il a utilisé les instruments techniques les plus élaborés de l'époque, tout en posant le respect de du fait de non montrer l'image du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant et d'alternatif, même sur le plan culturel. Donc c'est un stimulant. La même chose pour la non-représentation de Dieu. Ça a lancé toute une série d'éléments qui est entre autres la calligraphie. Donc ce type d'image n'est pas une entrave ou des balises. On dit ça tu peux, ça tu peux pas. Et donc en même temps, et une dernière chose, et vraiment je m'arrête là-dessus, il faut cesser cette surenchère dans l'amalgame et dans l'approche essentialiste que l'on fait de l'autre. Autant il y a des blocs d'un côté où je vous le dis, on rappelle, et Charlie Hebdo est en train de faire le relais aujourd'hui de manière scandaleuse, et puis en même temps c'est clair, on est en train de surfer sur le profit à tout va, mais de dire voilà, ça c'est l'image de l'islam et de ce monde de barbares qui est en train de gesticuler depuis Kaboul jusque Tanger, et ça nous pose un vrai problème aujourd'hui. Mais de l'autre côté, dans le monde musulman, c'est exactement la même chose, et effectivement on ne peut pas répondre le mal par le mal, et de dire, de parler de boycott de produits danois, de brûler des drapeaux, qui est une violation en tant que telle, de manifester toute sa haine et de vociférer au point de menacer que ce soit des journalistes ou des résidents danois ou européens à l'étranger, etc., est un réel problème dans le fait qu'on n'a rien compris et qu'il y a derrière, au fond, une réalité beaucoup plus complexe que celle qu'on est en train de voir, et qu'il y a effectivement des manipulations. Moi, j'ai un vrai problème quand j'ai des voix, par exemple, du gouvernement de certains pays de musulmans, je dirais pas musulmans, de certains pays de musulmans, qu'on laisse aller dans la rue et déambuler avec toute une série de manifestants derrière. Ça me pose un problème. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on est en train de montrer? Dans la Syrie, par exemple, ou un pays où on ne peut à peine bouger, pour ceux qui connaissent réellement la Syrie, où on laisse aller jusqu'à brûler des ambassades aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est en train de vouloir montrer? Est-ce que c'est pas un défilé militaire de civils? On est en train d'envoyer un message fort au niveau international au moment où il y a d'autres débats qui sont traduits par le rapport de force. Moi, je crois que les musulmans doivent aller vers la retenue, vers la construction positive et de lancer toute une série de plateformes. Alors, concrètement,
alors vraiment,
10
secondes,
quoi faire ?
10 secondes, vraiment.
Un mot. Que dire et que faire? Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut aller à la rencontre des citoyens et de débloquer, de faire toute une série de plateformes de rencontres. Alors moi, la manifestation, ça me pose un gros problème parce que ça ne m'intéresse pas. J'ai rappelé, il y a quelques années, Mohamed Dorra, rahimahullah, qui est tué en direct depuis la Palestine, devant les écrans télévisés, ça a mobilisé des dizaines de milliers de personnes dans les rues bruxelloises et à travers le monde. Et aujourd'hui, la réalité de la Palestine n'est pas plus avancée que cela.
Or,
aujourd'hui, il
n'y
a pas des milliers de personnes. De l'autre côté, par rapport à cette question de caricature, mais bloquons à l'intérieur des mosquées, dans des salles de conférences, des espaces de rencontres qui traduisent ce qu'est le prophète alayhi salatu wassalam, et que nous puissions enfin aller vers quelque chose de positif. Parce qu'une fois que j'ai expliqué, traduit ma sensibilité ou parfois vociféré des mots haineux, qu'est-ce que je vais faire? Ben rien.
Voilà,
il est là
allez,
mon problème.
Au-delà des frustrations,
je n'aurais pas fait avancer les mentalités.
Je vous remercie. Fadi, monsieur le président du COCAB.
Oui, moi j'ai surtout un autre angle de lecture qui est complémentaire. C'est que le problème qui m'est posé par les caricatures, c'est l'amalgame. L'amalgame entre terrorisme et musulmans, en tant que tel.
Alors ça, je pense qu'on est tous d'accord.
Bah voilà. Alors ça, parce que quand on veut voir la chose, moi je pense qu'il faut la mettre dans l'absolu et commencer à la lire. Et quand on la met dans l'absolu, ça veut dire qu'on ne va pas réagir en tant que musulman sur la chose. Il faut réagir sur la chose en tant que personne qui aimerait vivre en paix, en sérénité, avec toute l'humanité. Et c'est tout. En tant que démocrate, en tant que quelqu'un qui va défendre la liberté d'expression, parce que moi, je ne veux pas faire de balises à la liberté d'expression. Moi, ce que je veux, c'est que chacun doit être libre, respectueux vis-à-vis de l'autre, est responsable de tout ce qu'il fait, de la façon dont il agit. Comment on peut réagir vis-à-vis de cela? Il y a plusieurs niveaux de réaction. Parce qu'il y a des réactions qui doivent se faire vis-à-vis d'abord de l'incriminé, celui qui a fait la caricature et le journal. La seconde chose, vis-à-vis des gens qui sont en train de manifester ici, localement, pas ailleurs, ceux qui veulent exprimer leur désapprobation de tout ça. Mais sans se dire, bon, je vais m'adresser aux musulmans ou aux juifs. Non, je m'adresse à tous les citoyens. Qui veut agir à ce niveau-là? Parce que ce ne sera pas la dernière fois. Ce ne sera pas la dernière fois qu'on va provoquer l'un ou l'autre, qu'il soit musulman ou juif. Ou... Parce que demain, n'importe qui va te sortir cette caricature sur les juifs. Et allons-y! On ne va pas l'arrêter. Le problème au niveau de la liberté de la presse, au niveau de la liberté d'expression, c'est que on s'y attaque, comme tu l'as fait avant qu'on arrive ici, ou avant qu'on participe à ce débat, avec le journaliste, c'est qu'il y a deux poids, deux mesures dans la question de la liberté.
Dans le traitement, tout à fait.
Dans le traitement de la liberté d'expression. Et ça, on le refuse, parce qu'on est tous des citoyens, et on est tous égaux devant la loi. Merci.
Merci. Alors peut-être pour conclure, je donnerai la parole au président de l'exécutif des musulmans de Belgique. Président, vous devez avoir énormément de travail ces derniers jours.
Moi, je crois que nous sommes en train de nous occuper des choses qui sont peut-être pas, je dirais, dans notre cahier de charges, parce que nous avons des charges extrêmement importantes. Et là, la reconnaissance des mosquées, la reconnaissance des imams, et toute une série de choses encore que nous devons encore accomplir, et là, ça ne nous aide pas beaucoup. Évidemment, je reviens à ce qui a été dit un peu tout à l'heure, c'est que le problème, en fait, c'est que les musulmans doivent s'inscrire dans une certaine maturité. Et là, je crois qu'il y a beaucoup à faire, parce que non seulement il faut comprendre l'autre, il faut se faire comprendre, il faut mieux nous exprimer, il faut rester ouvert dans le dialogue, mais ce que nous revendiquons aujourd'hui, qu'on ne fasse pas l'amalgame entre terroristes et musulmans, en fait, dans une certaine manière, nous le faisons aussi. Pourquoi ? Parce que nous avons vécu avec les manifestations qui ont mal tourné. Les ambassades du Danemark ont été brûlées, saccagées. Des personnes ont été menacées de mort. Donc, toute une série de violences qui ont été manifestées envers les représentants des gouvernements, etc. Alors qu'il s'agit là d'un quotidien danois qui l'a fait, de la personne en question qui a fait cette caricature. Et s'il faut réagir, il faut réagir en fonction des droits, de la justice envers cette personne et voir... encore aller plus loin, comme le frère Farid Al-Asri le disait. Donc, la solution du problème, la résolution du problème réside à nous faire mieux comprendre et à comprendre mieux l'autre. Parce que manifester, c'est une chose, c'est un droit, bien sûr, mais ça ne sert à rien à partir du moment où, dans votre revendication, vous demandez aux autres de vous respecter parce qu'il y a une loi qui vous protège. Ce n'est pas la solution. Donc, il faut être ouvert au dialogue. Et je crois que les réactions qui doivent être menées par les musulmans doivent être réfléchies et sages. Et dans ce qu'on voit maintenant, on fait nous-mêmes l'amalgame entre Danois, gouvernement, ambassade et l'auteur de ces caricatures en question, alors que nous revendiquons le contraire également. Donc je crois qu'il y a, une certaine maturité qui doit s'installer. On doit aller maintenant vers cette maturité. Il faut d'abord que nous sachions... qu'est-ce que nous défendons, parce que je crois que dans une certaine manière, les personnes qui manifestent une certaine violence dans ce genre de manifestation, c'est qu'ils ne défendent pas le prophète lui-même. En fait, dans ce qu'ils font, ils sont en train de satisfaire leur propre ego en quelque sorte.
Un peu leur frustration.
Un peu leur frustration de ce qu'ils ont vécu. Peut-être qu'ils ont des moyens, qu'ils n'ont pas assez de moyens, ils ont des difficultés financières. Le monde n'est pas parfait, c'est vrai, mais... je crois que dans toutes sortes de manifestations, le risque de débordement existe. Je crois qu'il faut éviter ça. Nous avons eu des manifestations la semaine passée, dimanche, et alhamdoulilah, ça s'est bien passé, même si ça n'a pas été organisé par quelques associations, donc c'était un peu spontané. Et enfin, je prie Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il ne s'est rien passé. Heureusement qu'il ne s'est rien passé. Et maintenant, lorsqu'on entend qu'il y a peut-être des manifestations qui vont avoir lieu, moi j'ai des doutes et j'ai des craintes vraiment très sérieuses.
Vous appelez justement la communauté musulmane à faire preuve de sagesse et à ne pas manifester ou à manifester sa désapprobation de manière plus intelligente.
Bien sûr. Parce que, c'est quoi le but d'une manifestation? C'est de faire passer un message. Et le message, maintenant, il est passé. Le reste, maintenant, nous devons construire quelque chose de mieux. Voir derrière nous qu'est-ce que nous avons mal fait. Parce que si les gens nous comprennent mal ou bien ne nous comprennent pas, eh bien, d'un côté, nous sommes aussi responsables de notre image.
Une autocritique.
Une autocritique, bien sûr. Il faut qu'on puisse avoir cette autocritique et aller vers l'autre pour lui dire, écoutez, ce n'est pas ce que tu penses de moi, ce n'est pas vrai, il faudrait qu'on s'entende là-dessus et donc se mettre autour de la table et dire, voilà, il faut qu'on se respecte l'un et l'autre, mais ma religion, ce n'est pas comme ça, l'islam, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas l'enseignement de l'islam, le prophète n'est pas comme ça, les musulmans ne sont pas des terroristes, mais il faut le faire à travers le dialogue. Et la manifestation, c'est une solution peut-être, à condition qu'on puisse garantir une certaine sécurité. Et lorsqu'on dit manifestation et réaction, et malheureusement, ça devient difficilement contrôlable. Et je crois que la manifestation qui a eu lieu la semaine passée, on doit en rester là pour ne pas, justement, effacer l'image de cette manifestation par une autre qui aurait le risque de mal tourner.
Voilà, donc c'était le président de l'exécutif des musulmans de Belgique, monsieur Beyazgoul Djoshkoun. Je voulais vraiment vous remercier tous ensemble, le président du COCAB, composant de la communauté arabe de Belgique, monsieur Fadi Benadi, ainsi que les professeurs de religion musulmane, notamment conférenciers Farid Al-Assari et Yaqoub Mahi. Je voulais remercier le journaliste Olivier Moukouna qui nous a présenté son livre Tolérance Zéro. Et puis remercier aussi Guy Carlier, et oui, Guy Carlier qui depuis Paris, en tout cas, où nous avons un direct d'un quart d'heure pour s'expliquer par rapport à sa phrase malheureuse qu'il a eue entre le hooliganisme et l'islam. Il s'est exprimé à ce sujet. Je pense qu'il a clarifié sa position et nous ne pouvons que la respecter. Voilà, chers auditeurs, c'était à l'écoute de Radio Louafa, l'émission Les Informations Citoyennes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec encore des débats très intéressants. Soyez à l'écoute. Radio News 2005 @yahoo.fr 0473 595 407. Toujours à l'écoute. 106.8 FM. Je rappelle qu'en partie, éventuellement, on essaiera de mettre ces débats sur le site d'Indemedia.com. Je ne vous promets rien, en tout cas je vous tiendrai au courant. Envoyez-moi un email radionews2005@yahoo.fr. Wassalamu alaikum.
سحروني عينيك لوني ما تسلمش فيك يلي سحروني عينيك لوني ما تسلمش فيك
يلي حبوني يلي سحروني يلي سحروني عينيك محال 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 قلبي سلم
سحروني عينيك راني بنسلم شي فيك يلي سحروني عينيك راني بنسلم شي فيك
يلي هلكوني يلي سحروني يلي سحروني عينيك محال 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 قلبي سلم فيك
سحروني عيني راني ما نسلمش فيك يلي سحروني عيني راني ما نسلمش فيك
يلي هلكوني يلي سحروني يلي هلكوني عيني